16h49, Raphaël, il y a quelques instants, on avait, il y a peut-être une heure, là, on avait le professeur Sylvain Charlebois, spécialiste en agroalimentaire, qui nous parlait justement des difficultés aux États-Unis là, qu'on peut avoir dans certains secteurs à assurer, disons, la production de viande. Et Donald Trump, aujourd'hui, doit signer un décret visant à assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Oui, et ça suit une publicité, je dirais, qui a créé une sacrée onde de choc dans le New York Times. Je ne sais pas si toi, Philippe, vous avez vu ça, mais oui. Au courant de la fin de semaine, donc vous savez de quoi je parle, la compagnie, en fait le géant, je devrais dire, Tyson, un géant dans le monde alimentaire américain, a surpris bien des gens en annonçant, encore une fois, là, dans une pub pleine page, qu'il y avait des risques très réels qu'il y ait une rupture, pas une rupture de stock, mais tout au moins des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et on parle surtout du monde de la viande, donc porc, mais poulet, bœuf.
Raphaël, le professeur Charlebois semblait nous dire que oui, d'un côté, c'est vrai que, comme tous les autres humains, les travailleurs de ces usines de transformation peuvent être atteints là, par la COVID, mais lui, il voit un effort de lobby aussi. C'est une façon, dit-il, de tendre la main au gouvernement fédéral américain pour avoir de l'argent.
C'est possible. C'est très possible. Une fois que ça s'est dit, ce qui semble également vrai, tout au moins dans certaines régions des États-Unis, c'est que les lieux où il y a des abattoirs, des usines de la sorte, il semble y avoir un nombre assez disproportionnel de cas recensés de la COVID-19. Maintenant, tu le sais comme moi, ça fait assez de semaines que je te casse les oreilles en disant que le nombre de cas recensés, c'est une mesure extrêmement problématique. Mais écoute, je te donne un exemple quand même qui me semble assez évocateur. Un petit comté en Iowa, le comté de Black Hawk. Évidemment, ça dira strictement rien à peu près tout le monde qui nous écoute, mais voici pourquoi c'est important. C'est un comté dans lequel on retrouve l'abattoir le plus important de la chaîne Tyson. Et dans ce comté-là, la moitié des cas recensés à la COVID-19 viennent de l'abattoir. Et tu sembles avoir le même genre de scénario dans plusieurs autres régions où il y a des abattoirs importants. Donc, est-ce qu'il y a une composante politique, est-ce qu'il y a une question d'argent? C'est très possible.
C'est vrai, puis les travailleurs de ces usines-là ont dit aussi, « Hey, Tyson peut bien se plaindre, mais sauf que on n'avait pas accès à des produits de base pour se nettoyer puis se désinfecter. »
Et se protéger, exactement. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont critiqué la chaîne pour pas avoir fermé plus tôt. Et donc, en réaction à tout ça, en fait, ce que Donald Trump veut faire, ce n'est pas d'encourager plus de fermetures, c'est d'empêcher les fermetures d'usines. Donc, tu vas te rappeler, on s'en est parlé à quelques reprises, du fameux Defense Production Act, la fameuse loi qui date du milieu du 20e siècle, qui permet au président des États-Unis, si on veut diriger là, certains acteurs du secteur privé pour aider l'État fédéral américain à gérer une crise nationale. On s'entend qu'on en a une. En fait, on en a plusieurs crises dans la crise présentement. Et donc, il devrait signer un décret en référant à cette loi-là aujourd'hui qui ordonnerait qu'on maintienne ce genre d'usine-là, ce genre d'entreprise, ce genre d'abattoir-là ouvert. Donc, évidemment, ça va créer beaucoup de controverses dans ce milieu-là. En même temps, de l'autre côté, il faut quand même garder en tête que si on a une offre en viande qui chute, comme clairement c'est le cas parce que fermeture après fermeture, et qu'on a une demande en viande qui semble augmenter, peut-être parce que les gens sont davantage confinés à la maison, qui sait, on s'entend qu'on est sur la voie d'avoir une autre crise dans une crise dans une crise. Donc écoute, on essaie d'éteindre les feux comme on peut, mais plus le temps avance, plus des feux il y en a dans plein de secteurs de la société. Ça, c'est juste le plus récent exemple.
OK, parle-moi de la controverse en Californie là, qui implique deux médecins et le gouverneur de l'État.
Ça, c'est fascinant. Écoute, un petit peu comme toi, un petit peu comme Philippe, je baigne là-dedans matin, midi, soir. Il y a une vidéo que j'avais vue pendant la fin de semaine dont je n'allais même pas te parler, mais là, à cause des développements de la journée, dont j'ai comme pas le choix de te parler. Deux docteurs, Dan Erickson et Artin Assi, qui sont dans le sud de la Californie, sont des experts en immunologie, en microbiologie, et ils ont mené à peu près 5000 tests de COVID-19 dans leur communauté. Ils sont allés présenter il y a quelques jours leurs résultats aux médias locaux. Donc, il n'y avait rien de grandiose à la base, mais c'est vite devenu, parce que ça a été filmé, c'est vite devenu une espèce de sensation virale sur les médias sociaux. Premièrement, très controversé parce que plusieurs autres médecins et des associations de médecins qui sont sortis sur la place publique pour, je te dirais, poser des sérieux bémols sur certaines de leurs conclusions. Puis moi-même, honnêtement, en écoutant le début de leur présentation, j'avais un petit peu de misère à voir comment ils arrivaient à certaines de leurs conclusions statistiques. Donc, il y a ça d'un côté, mais ce qui a rendu, je te dirais, la vidéo encore plus explosive que ça, c'est que après qu'ils aient présenté leurs résultats, le reste de la vidéo, ça dure à peu près 3 quarts d'heure, ils vont d'un un assez vibrant plaidoyer pour le déconfinement. Et ce sont 2 médecins. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un plaidoyer qui n'est pas fait sur une base économique, mais qui est fait d'un angle médical, d'un angle scientifique. Donc, par exemple, ils évoquent les problèmes que eux s'attendent à voir en urgence dans les hôpitaux au niveau du nombre de malades qu'on va voir après le déconfinement si on l'étire trop à cause des problèmes qui seraient causés par le déconfinement sur le système immunitaire humain. Et on écoute à cet effet-là un extrait de la vidéo en question.
As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I'm at home hand washing vigorously, washing the counters. Worried about things that are indeed what I need to survive. Let's follow the science. This is immunology, folks. This is microbiology. This is what we've combined together. We have 40 years of experience in this. This is common sense immunology.
Donc, c'est ça. C'est que plus on force les gens à rester à la maison, selon eux, et surtout plus quand ils sont à la maison, plus ils désinfectent tout, moins ils vont être exposés à des virus, à des bactéries, et plus ça va affaiblir leur système immunitaire. Et donc, quand tout ce bon monde-là va sortir, le risque d'infection, pas simplement à la COVID-19, mais à toutes sortes d'autres infections potentielles, va augmenter de façon dramatique, selon eux.
Est-ce qu'ils citent des sources?
Non, et c'est là que ça devient matière à débat. Mais qui dit débat, dit également à l'ère de la COVID-19, des fois, un débat qu'on ne veut pas avoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et c'est ça qui fait que je voulais vous en parler. La fameuse vidéo qui avait atteint plus de 5 millions de visionnements à l'espace de quelques jours sur YouTube a été retirée par YouTube à la demande, de ce qu'on en comprend, du gouvernement de la Californie. Le gouvernement de la Californie qui est critiqué pour son ordre de confinement par ces 2 médecins-là. Et donc, on est dans une situation où c'est pas évident, où c'est pas blanc et noir, parce que d'un côté, les autorités médicales disent on ne peut pas se fier à ce que ces 2 médecins-là disent, mais ils vont à l'encontre des directives émises par la santé publique.
Ça explique peut-être, Raphaël, les images absolument sidérantes qu'on a vues pendant le week-end des gens sur les plages en Californie. Là. Les plages ont été prises d'assaut comme s'il n'y avait absolument aucun risque, au point où le gouverneur Gavin Newsom a dit « Écoutez, là, le virus ne prend pas congé pendant le week-end. »
Non, et ça ressemblait en fait aux images, et vous en rappelez probablement Floride, tous les deux, de la Floride, évidemment, dont on se parlait il y a un petit peu plus d'un mois. Tu sais, à quel point est-ce qu'on doit encourager, est-ce qu'on peut permettre, est-ce qu'on doit permettre ce genre de débat-là? On est vraiment là-dedans aux États-Unis. Ce n'est vraiment pas évident. Ce que je dirais sur une base très personnelle, c'est qu'évidemment, je ne suis pas médecin. En même temps, de façon générale, je pense que c'est sain, surtout d'un point de vue scientifique, qu'on ait des débats. Et il y a tellement de choses qui sont encore incertaines présentement sur la COVID-19 que c'est bon d'avoir un débat. Est-ce que ça peut, ce débat-là, nuire à la santé? Écoute, il n'y a pas de réponse là-dessus pour l'instant, mais c'est vraiment intéressant. Je vous laisse sur ceci également, parlant de choses scientifiques drôlement intéressantes. Vous rappellerez l'histoire dont je vous avais parlé il y a quelques jours, de la prison du comté de Marion en Ohio, qui avait une foule de cas asymptomatiques. On a appris dans les derniers jours que dans 4 systèmes de pénitenciers aux États-Unis, on avait des milliers de cas de COVID-19. Plus de 95% d'entre eux étaient des cas asymptomatique. Autrement dit, encore une fois, beaucoup de choses qu'on apprend à tous les jours sur ce virus-là.
Merci, Raphaël. À demain.
À demain.
Merci, Philippe Quentin. Vous êtes aussi en congé.
Salut, Patrick.
On se reparle. OK, à venir, toute la gang de chroniqueurs du 17h.